se escurecendo ao lado do entardecer. A tarde inteira.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Le programme que vous allez écouter est une rediffusion.
Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 2025 et je rencontre Anaïs Masson à Rio de Janeiro. C'est votre dernier jour à Rio. Anaïs, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de me consacrer un petit peu de temps. Allegre FM organise une semaine thématique « Avoir 20 ans en 2026 », où vous êtes née en 2000 précisément. Anaïs Masson, ça n'est pas votre premier voyage au Brésil. Vous avez un lien particulier avec le Brésil, on est d'accord?
Oui, il est passionné.
Voilà. En plus, vous maîtrisez le portugais et vous rentrez ce soir à Paris. Alors, vous avez un parcours qui sort un petit peu du commun. Vous avez une vie qui... Voilà, vous n'avez pas la vie forcément de monsieur et de madame tout le monde. Vous êtes né en 2000 d'un père français et d'une maman malgache. Donc, vous êtes franco-malgache. Vous avez les deux nationalités, Anaïs Masson?
Non, juste française.
D'accord. Alors, évidemment que vous êtes métissée. Est-ce que quand vous êtes au Brésil, vous passez pour une Brésilienne? Est-ce que vous êtes un peu passe-partout de ce fait-là?
Je suis vraiment passe-partout au Brésil ou ailleurs. En fait, du coup, j'ai la peau mate. Et donc ici, je trouve qu'au Brésil, il y a énormément de mélange et de mixité. Donc, on me dit souvent que je viens de Sao Paulo, du quartier Liberdade.
D'accord, le quartier asiatique.
Oui, une communauté japonaise assez forte. Après aussi que j'ai l'air d'avoir une descendance indigène.
Oui, vous pourriez passer pour... Oui, absolument.
Bolivienne, péruvienne. Oui. Même en Colombie, on me disait que je faisais colombienne. En plus, comme je parle espagnol, du coup, ça aide. Donc oui, même au Mexique. Et après, en Asie, quand j'y vais, c'est pareil, puisque j'ai des traits asiatiques aussi. Ce qui fait que je suis un peu passe-partout et au Brésil, évidemment.
Alors, le peuple malgache est aussi un peuple métissé parce que... C'est en Afrique, mais il y a des influences de l'Inde, de la Chine.
D'ailleurs, j'ai un arrière-grand-père qui est indien et une arrière-grand-mère qui est malaisienne aussi.
Ah, très bien. Alors, Anaïs Masson passe partout, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans en 2026? Vous avez un tout petit peu plus que 20 ans, mais on va pas chipoter. Et surtout, j'ai l'impression, Anaïs, que vous voulez profiter maintenant, tout de suite, de tout ce que la vie peut vous offrir. Vous êtes assez débrouillard parce que, en fait, vous voyagez toute seule avec votre sac à dos depuis un petit moment maintenant, mais vraiment dans le monde entier. Mais est-ce que votre entourage, vos parents, vos grands-parents sont pas parfois un petit peu inquiets de se dire
Alors si, enfin, mon père, il m'a toujours poussée à voyager. Et en fait, mes parents, déjà, ils m'ont poussé à voyager depuis... Enfin, ils adoraient partir en voyage, donc ils m'ont donné ce goût-là. Après, dès que j'ai fait mon premier voyage, je pense, en Amérique du Sud, ils ont bien vu que ça se passait très bien. Donc, et j'ai essayé de leur donner contact assez souvent. Mes grands-parents étaient plus inquiets, surtout... en vue de, par exemple, je sais pas, les reportages qu'ils regardaient vis-à-vis de la Colombie, enfin les FARC, comment ça se passait.
Oui, c'est un pays qui n'a pas forcément très bonne presse. Donc ça, c'est votre premier voyage en solo, c'est la Colombie?
Oui, c'est la Colombie.
D'abord, vous êtes parti en Espagne, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça, pendant 6 mois, à Alicante. Et oui, vraiment, c'était vraiment mon premier voyage. Et c'est vrai que du coup, partir dans un continent que je ne connaissais pas, aussi longtemps, du coup, c'était l'objectif de partir 6 mois. C'était assez gros, alors que j'aurais pu partir peut-être, c'est pas une ou deux semaines en Europe.
Oui.
Donc
là, on est juste après la pandémie, on est en 2021, les frontières sont rouvertes, donc on peut à nouveau voyager. Pendant 6 mois, qu'est-ce que vous faites en Espagne?
J'ai fait un stage en marketing. Et donc, j'étais un peu comme en Erasmus. Donc, dès que je suis arrivée, j'ai trouvé mon appartement. J'ai essayé de faire des événements Erasmus où je rencontrais des gens, je faisais des activités sportives ou culturelles. Et donc, je me suis fait un peu ma vie là-bas, du coup, en 6 mois. Et après, j'ai voyagé dans toute l'Espagne aussi, du coup.
Donc, vous avez une formation marketing. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude précisément?
Donc, j'ai fait un bac scientifique. Puis après, j'ai fait une licence en économie et gestion à l'université d'Assas, à Paris. Et ensuite, j'ai fait une année de césure, où là où j'ai fait mon voyage, du coup, d'un an. Et ensuite, quand je suis revenue, j'ai fait un master, toujours en marketing et communication, à Assas.
Quero saber o seguinte, tem gente da Zona Sul aí? Copacabana, Leme, Chapéu Mangueira, Gávea, Leblon, alô Rocinha, alô Vidigal. Tem gente aqui do centro aí? Santa Teresa, Providência, Praça da Bandeira, Estácio, Rio Comprido, Lapa, Catete, Rora. Tem gente lá da Zona Oeste aí? Alô, Bangu, Campo Grande, Realengo, Padre Miguel. Tem gente lá da Baixada aí também? São João de Meriti, Nilópolis. Alô, Caxias. E do subúrbio? Tem gente do subúrbio aí? Meia. Meia. E gente dentro. Piedade. Quintino. Cascadura. Pula. Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal, Deodoro. Marlobo, Penha, Ramos, Olaria, Complexo do Alemão. Mas o melhor lugar do mundo é... O maior lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é a nossa casa. É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho. É lá que a gente janta com a patroa. Tem que dar um peguinha na patroa também, né? Pra não dar mole. Dorme e sonha com um mundo melhor, acorda pra realidade. Pra ir lutar tudo de novo. Pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós. Esse lugar que a gente ama tanto, a gente diz com maior orgulho. Sou nascido e criado aqui. Esse é meu lugar! Caminho de ruimça, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar.
Anaïs Masson, 2021, vous passez 6 mois donc à Alicante. Et comment est-ce qu'on passe de l'Espagne à la Colombie, et pourquoi la Colombie et pas... Et pas le Venezuela ou le Paraguay.
Oui, c'est vrai que, en fait, je sais pas, ça m'a toujours attiré la Colombie. Je pense que déjà au lycée, j'avais une prof d'espagnol qui était colombienne et qui parlait beaucoup de l'histoire de l'Amérique latine, de la Colombie. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Et aussi, j'étais restée sur un peu en arrière-goût parce que j'avais été prise dans un échange en Colombie. Du coup. Qui a été annulé pendant le Covid. Et donc,
ouais,
les
petites frustrations.
Voilà. Donc, j'étais en mode, non, je ne peux pas rester sur ça. Il faut que je parte en Colombie. Et parce que je m'étais vraiment projetée. Du coup, j'avais vraiment envie de faire cette année-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi la Colombie.
Donc, en Colombie, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que c'était vacances ou est-ce que c'était sac à dos ou est-ce que vous étiez à un endroit fixe?
Ben, en fait, c'était un peu des deux parce que je m'étais dit, j'ai envie de faire des choses que je pourrais pas faire en tant que professionnel ou en tant qu'étude. Je sais pas, par exemple, être réceptionniste, ça m'a toujours attiré.
Réceptionniste quoi, dans un hôtel?
Dans une auberge jeunesse.
Oui.
Et donc, je voulais faire ça, je voulais aussi faire dans des associations. Donc, j'ai fait vraiment 3 mois de volontariat, 3 mois de voyage. Et donc, j'ai fait du coup des volontariats en tant que J'ai fait barman dans une auberge jeunesse.
En Colombie.
En Colombie.
D'accord.
J'ai fait un mois.
Donc là, vous prépariez les cocktails.
Oui, c'est ça, sur la plage. C'était un surf hostel.
C'était dans quel endroit en Colombie?
Vers Santa Marta.
Donc ça, c'est l'océan Atlantique.
C'est
les Caraïbes.
C'est les Caraïbes.
C'est pas la côte Pacifique.
Non.
Je précise pour les auditeurs, parce que la Colombie, c'est l'unique pays d'Amérique du Sud qui dispose de deux ouvertures distinctes sur la mer. Il n'y a aucun autre pays qui a deux côtes distinctes, puisque en fait, au nord de la Colombie, c'est l'isthme de Panama. Donc, à droite, c'est les Caraïbes et à gauche, c'est le Pacifique.
Et c'est hyper différent en plus de...
Oui.
Du reste Pacifique, côte Caraïbes, ça n'a rien à voir.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Donc là, vous travaillez,
c'est ça.
Vous profitez.
Mais j'ai fait aussi un volontariat où j'ai fait de la conservation de tortues marines. Donc on devait repérer les œufs sur la plage. C'était peut-être la maintenance de l'écologie, donc des choses à repeindre, des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup appris aussi sur la naissance des bébés tortues, il fallait les protéger de des prédateurs, donc c'était super. Et c'est aussi ça qui m'a, enfin, pas que ce volontariat, mais je pense mon voyage qui m'a réveillé ma conscience écologique plus. Et aussi j'ai fait être réceptionniste dans des auberges jeunesse, j'ai beaucoup aimé être avec des gens et aussi parler plein de langues différentes.
Avoir 20 ans en 2026, vous écoutez Brasil Alto Astral, vous écoutez Allegre FM. Je suis avec Anaïs Masson, là on est à Rio de Janeiro, vous repartez ce soir pour Paris, vos vacances sont terminées. Est-ce que par nature, vous êtes quelqu'un qui se lie assez facilement d'amitié? Est-ce que vous êtes un peu la bonne copine, entre guillemets?
J'ai un peu trouvé ma force d'ailleurs avec ce voyage. Je pense que j'ai compris que je sais lier des amitiés un peu profonde, on va dire, assez vite. Du coup, je me fais énormément d'amis, mais qui restent vraiment des amis sur le long terme. On peut partager des choses quand même assez privées. Et enfin, c'est ce qui m'enrichit, moi, et sur qui on peut compter. Donc oui, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que même réceptionniste, c'est quelque chose qui me va bien, parce que du coup, les gens, ils aiment bien se livrer et on vit des moments assez intenses. Donc, oui, le voyage, j'aime beaucoup aussi parce que ça permet de rencontrer énormément de gens.
Bien sûr.
Et aussi, de vivre des choses assez intenses avec plein de gens, mais de voir que même si on a des cultures différentes, en vrai, on a un peu les mêmes sujets de préoccupations, de santé mentale, par exemple, et que ça passe au-delà de nos cultures. Mais en même temps, on peut aussi trouver des solutions à nos problèmes qui sont différentes selon les cultures. Et aussi, je trouve que la manière dont, par exemple, un Brésilien voit un problème vis-à-vis d'un Français, ça n'a rien à voir. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'on peut le traiter d'une façon différente et
bien d'accord.
Oh, c'est bien, quoi.
Oui, oui. Alors, très jeune, donc vous avez 20 ans et quelques, vous partez toute seule à l'autre bout du monde, en Colombie. Vous êtes d'un tempérament un peu aventurière, vous êtes débrouillarde, ou est-ce que vous avez un petit peu pris sur vous? Est-ce que vous étiez en confiance, ou est-ce que ça a été un peu quand même, sortir de sa zone de confort, il faut un petit peu quand même se donner un coup de pied au derrière?
Mais en fait, aussi, le but de mon voyage toute seule, la vérité, c'est que de base, je détestais être toute seule. J'habitais en coloc et je passais tout le temps du temps avec mes amis. Enfin, je voyais énormément. Il n'y avait pas un moment que je passais toute seule. Et quand j'étais toute seule, j'étais hyper triste. J'ai vécu un an dans un appartement toute seule. J'ai vraiment détesté. Et le défi un peu de ce voyage, c'était de passer au-delà de ça. Et aussi, je suis quelqu'un, je trouve, d'assez même si je me fais des liens facilement, par exemple, entrer dans un groupe, je n'aime pas, je suis assez introvertie vis-à-vis de ça. Et donc, c'était un peu le défi, du coup, d'aller et de rentrer des personnes. Et en fait, ce qui s'est passé pendant mon premier voyage, j'ai vu que grâce au volontariat, etc., j'ai pu lier des amitiés et du coup, c'est allé assez naturellement. Mais j'ai vraiment eu un déclic où j'ai fait un mois, du coup, en tant que barman dans un hostel, du coup, une auberge. C'était vraiment, il fallait socialiser tous les jours. C'était une auberge où tout le monde faisait la fête et les gens y échangeaient tous les trois jours. Et à la fin de ce mois, j'étais épuisée socialement et que je ne voulais plus voir personne.
Ouais, ouais.
Même, on se disait ça avec les autres volontaires. Et en fait, je suis partie. Bah, j'ai fini le volontariat. Je suis allée à Minca. Donc, c'est vers Santa Marta. C'est une région super belle où il n'y a que des montagnes. Et je me suis isolée toute seule pendant une semaine. Et c'est là où je me suis dit, je m'en souviens très bien, en fait, si je suis avec des gens, c'est super. Et si je suis toute seule, c'est super aussi. Enfin, dans les tocas, je suis très contente et j'ai commencé à apprécier ma propre compagnie et ça a été vraiment un déclic. Et suite à ça, mon voyage, il a été génial parce que, en fait, j'ai vraiment pris goût à avoir ma liberté de faire ce que je veux, quand je veux, et de cette confiance en moi de passer du temps avec ma propre compagnie. Et que maintenant, je me sens... Enfin, en fait, pour moi, c'est tout à fait normal. Et du coup, même d'écouter mes propres limites, des fois, si j'ai envie d'aller à la plage toute seule, j'y vais. Si par contre j'ai envie de voir des amis, j'y vais, je peux dire non. Si j'ai envie de manquer une soirée, oui, alors qu'avant j'avais un peu la FOMO. Genre vraiment, ça m'a vraiment débloqué.
Quoi?
FOMO, Fear of Missing Out.
Ah, je ne connaissais pas.
Oui. Ça veut dire
peur de rater.
De rater un moment.
Sympa.
Oui, la fête aussi.
Fear of Missing Out.
C'est ça, la FOMO, c'est très, très utilisé chez les jeunes. Et du coup, ça m'a vraiment débloqué, ça m'a mis en confiance, Enfin, vraiment, ça m'a donné confiance. Mais quand je suis partie, non, j'avais pas du tout cette confiance-là. Donc, c'était vraiment un défi que j'ai... Franchement, j'ai été hyper contente de le relever. Les deux premiers mois, ça a été très dur. En vrai, j'avais vraiment envie de rentrer parce que ma famille, elle me manquait. À ce moment-là, j'avais une relation et cette relation, elle me manquait aussi. Et en fait, ça m'a permis de me détacher et d'être hyper équilibrée aujourd'hui. Entre les voyages, entre voir mes amis, mais aussi de prendre du temps pour moi.
Quem ganha, quem perde, são só oceanos. Ninguém se esbarra, todos compartilham vivências e sonhos. Doces sorrisos no raiar do dia, espero amanhã para dizer bom dia a todas as pessoas que saem de suas casas coloridas. Doces sorrisos no raiar do dia, espero amanhã para dizer bom dia a todas as pessoas que saem de suas casas coloridas. Axé, Bahia, quem mora no mar é pura alegria. Axé, Bahia, quem mora no mar é pura alegria. De onde eu vim, para onde eu vou, ouço muitas histórias de um povo que vive, que ama, que ri, que não mede e se joga. Tanto nas matas quanto cachoeiras, na beira de estradas, fazendo fogueiras, eu só agradeço por tanta sabedoria. Tanto nas matas quanto cachoeiras, na beira de estradas, fazendo fogueiras, eu só agradeço por tanta sabedoria. Axé, Bahia, quem mora no mar é pura alegria.
Alors, Anaïs Masson, avoir 20 ans en 2026, vous avez cette expérience qui est quand même assez formatrice de ce voyage en Colombie. Vous maîtrisiez déjà l'espagnol, donc vous n'aviez pas de problème de communication.
Oui, c'est vrai qu'après l'Espagne, du coup, le stage, il était en espagnol. Je pouvais parler, mais c'est vrai que quand je suis arrivée en Colombie, l'espagnol, il est très différent. L'accent...
Oui, mais c'est plutôt plus facile, je trouve, que l'accent de l'Espagne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Ben, en fait, je m'étais super habituée. Ah. Je m'étais très habituée parce que toutes les réunions, en plus, c'était l'espagnol de vers Valence, Alicante, c'est encore... c'est très rapide. Mais du coup, la manière dont parlaient en Colombie, au début, je ne comprenais pas leurs expressions. Ils avaient tellement d'expressions
différentes. Il y a des mots qui changent, oui. Colombie, c'est toujours tout de suite être chévere.
Oui, est chévere, est bacano. Et aussi, dans le vers Santa Marta, du coup, ils parlent, par exemple, ils ne prononcent pas les S. Et,
Ah, c'est déjà l'accent costeño.
Oui, c'est ça. C'est le costeño.
Ah oui.
C'est
donc, vraiment... on mange, par exemple, le pejado.
C'est ça.
On dirait qu'ils ont une patate chaude dans la bouche.
C'est ça. Et du coup, c'était un peu compliqué, mais après, c'est venu tout seul parce que, en fait, faut être. Enfin, ce qui est trop bien en Amérique latine, c'est qu'on est obligé de parler dans la langue pour parler parce qu'ils ne parlent pas forcément anglais. Pardon. Et du coup, c'est trop bien parce que c'était le but aussi de mon voyage, d'apprendre des langues. Et même pour moi, pouvoir communiquer avec les gens qui habitent dans le pays, c'est hyper important. Et pour faire des liens, justement, c'est de parler la même langue que le pays. Parce que sinon, je pense qu'on rate toute une partie du pays qu'on visite si on ne comprend pas les mots de la langue. Et donc, c'est vrai que aussi, c'est pour ça que j'avais choisi l'Amérique latine, c'est que je pouvais communiquer.
C'est plus facile que de partir au Cambodge où oui, on est d'accord.
Non, même s'ils parlent très bien en anglais, j'imagine. Non, justement, j'avais besoin de cette proximité.
Alors, Anaïs Masson, vous êtes née d'une maman malgache, d'un père français. Vous êtes donc métissée, donc c'est ce que je disais, vous passez partout. Là, vous avez une expérience assez constructive, j'ai l'impression, en Colombie. Et ensuite, comment est-ce que vous découvrez le Brésil et quel est aujourd'hui votre rapport avec le Brésil?
Alors, du coup, quand j'ai fini le premier voyage, je savais qu'après mon master, je voulais repartir. Soit en Amérique du Sud, soit en Asie. Donc, j'ai longuement hésité. Mais je m'étais dit que je voulais revenir avec une langue en plus. Donc, que du coup, le Brésil, je voulais vraiment concentrer mon voyage sur le Brésil. Donc, j'ai passé 7 mois là-bas. Et j'avoue que j'avais aucune attente. Je ne connaissais pas du tout. Justement, j'avais tellement été attachée par l'Amérique latine, enfin la Colombie, etc., que je ne sais pas, je connaissais rien. Et du coup, j'étais agréablement surprise. Je pense que c'est dans les moments où on n'a aucune attente sur un pays que justement, c'est génial en fait. Voilà.
Donc, vous arrivez au Brésil pour la première fois, c'était quand et vous arrivez dans quelle ville?
C'était novembre 2024.
D'accord. Donc, il y a un an et quelques.
Le 6 novembre. Et du coup, j'arrive à Rio. Et j'avais réservé 2 nuits dans une auberge de jeunesse à Santa Teresa.
Donc, c'est un petit peu le Montmartre, Carioca, on va dire.
Non, en fait, j'avais... Ah oui, et aussi, j'avais un ami qui faisait un échange là-bas et ça a aussi fait mon choix de décision. Il m'a dit, mais viens, en fait, c'est trop bien. Et je voulais le voir. Et je l'ai rencontré à mon premier voyage en Colombie. Et c'est un ami franco-danois et je l'ai vu au Danemark. Il m'a vu à Paris.
Vous êtes allé au Danemark?
Oui, 2 fois, du coup, pendant mon année de master. Et donc, j'étais en mode, bon, j'y vais. Et c'est lui qui m'avait recommandé un peu les quartiers. Donc, il m'avait dit Laranjeiras, Santa Teresa. Et, il habitait à Catete. Du coup, j'étais en mode, je vais habiter à côté de chez lui. Comme ça, c'est pas très loin. Et j'ai trop aimé l'auberge de jeunesse. C'est aussi maintenant des amis, des super bons amis que j'ai aujourd'hui. Et du coup, au final, j'ai passé une semaine là-bas. Et c'était vraiment la première semaine à Rio. Et tout de suite, j'ai trop, trop aimé, quoi.
Et là, Anaïs, vous étiez donc en vacances?
Ben, en fait, j'avais déjà des volontariats prévus.
Ah, très bien. Alors, en quoi ça consistait précisément?
Du coup, là, c'était permaculture. C'était dans un éco-village. Et donc, il fallait faire le compostage, la permaculture, le ramassage de déchets sur la plage. C'était apprendre aussi sur l'énergie solaire et l'agroforesterie. Et du coup, c'était 1 mois.
C'est un peu comme du Wufi.
Oui, c'est du Wufi.
Et c'était où précisément?
C'était vers Itacaré. C'était dans une communauté qui s'appelle Piracanga.
Alors, Itacaré, c'est à Bahia?
Oui, Bahia, c'est à 6 heures de Salvador. Et c'est près d'Ileus, à 1 heure d'Ileus.
D'accord. Donc, 6 heures en bus hein, de Salvador.
C'est ça.
Donc là, on est à 1000 km de Rio, on va dire, direction...
Oui, que j'ai fait en bus, d'ailleurs.
Ah. Eh bien, ça compense un petit peu avec vos voyages en avion, j'ai envie de dire.
Oui, j'essaie vraiment, dès que je peux,
oui.
de les faire en bus. Bon, après, je ne pourrais pas faire Paris-Rio, malheureusement.
Mais par contre, si vous avez 2 heures de bus, 2 jours de bus, pardon, est-ce que ça vous casse les pieds ou est-ce que vous dites, bah non, tant pis.
Non. Franchement, j'ai fait, le maximum que j'ai fait, c'était 48 heures de bus. J'avais fait La Paz, Huaraz. Donc, c'est La Paz, c'est en Bolivie. Parce qu'à Huaraz, au Pérou, c'est vraiment sur le nord. Et non, enfin, pour moi, le bus, j'aime beaucoup parce que c'est là où je peux prendre le temps, parce que mes bagages sont là.
Oui.
En fait, on n'a que ça à faire. Mais c'est là, je suis hyper pas stressée, parce que c'est là où je règle mes choses, je regarde des films, je regarde le paysage. Si je prends vraiment le temps, et enfin, j'aime beaucoup passer du temps. En plus, c'est vraiment du temps pour moi, parce que je suis toute seule. Et même des fois, il se passe des choses un peu random avec mes voisins de bus. Il y a beaucoup de familles qui voyagent en bus parce que ça peut être cher. Enfin, surtout au Brésil, c'est cher les vols intérieurs.
Oui.
Du coup.
Donc, il y a des interactions parfois où on discute.
Oui, bah, par exemple, là, j'y suis allée la semaine dernière, il était à Cava en bus. Et il y avait plein de familles brésiliennes et j'ai adoré passer du temps avec.
Vous êtes retournée à l'endroit où vous étiez il y a un an?
Oui.
D'accord.
Oui, en fait, je suis restée un mois, du coup, dans cette communauté-là. Mais tous les week-ends, il y avait des jours de libre, donc j'allais à Itacaré. Je m'étais fait aussi des amis là-bas. Et en fait, j'ai une amie qui m'avait recommandé ce volontariat. Et elle a fait ce volontariat il y a 4 ans. Et depuis, elle est restée vivre. Elle a construit sa maison toute seule.
Oui, sa vie a changé.
Ah oui, elle a construit sa maison toute seule. Elle a repris une association de conservation de tortues marines. Et du coup, là, je suis allée la rendre visite pour... voir sa maison qu'elle a fait. Elle a pris 1500 bouteilles plastiques. Elle a construit... c'est vraiment génial.
Donc, elle a récupéré des déchets,
oui,
qu'elle a utilisés pour construire sa maison.
Exactement.
Mais elle habite dans une maison en plastique, alors.
Oui, après, elle a fait du ciment. Elle a fait son lit. Il y a 2 étages.
Elle est originaire de quel pays,
cette... Elle est colombienne, mais elle a vécu en France. Mais on s'est rentré aux Pays-Bas. Parce qu'on avait une amie en commun qui faisait des études là-bas et quand je lui rendais visite, on s'est pris en contact et je savais qu'elle était au Brésil. Donc dès que j'ai su que j'y allais, je lui avais demandé si elle avait fait des volontariats. Elle recommandait, elle m'avait recommandé justement ce volontariat. Donc je suis allée lui rendre visite et aussi j'ai rendu visite à une amie qui habitait à Itacaré depuis 6 mois maintenant.
Vous écoutez Aligre FM 93.
C'est une rediffusion.
Anaïs Masson, avoir 20 ans en 2026, pardonnez-moi, mais vous êtes jeune, j'ai l'impression que vous ne pensez qu'à voyager et pas tellement à travailler. Est-ce que je me trompe?
Vous vous trompez.
D'accord.
Parce que j'essaye, justement, c'est un peu la question de quand j'étais rentrée de voyage. J'ai quand même des ambitions professionnelles. Mais en même temps, j'ai plein de projets professionnels. Je veux dire que je pense que par rapport aux anciennes générations qui font qu'un travail toute leur vie, j'ai autant envie d'être réceptionniste que barista que faire un travail en rapport avec mes études des études. Par exemple, moi, j'aimerais bien évoluer dans les études marketing. Donc, c'est quelque chose qui compte pour moi d'évoluer professionnellement. Par contre, je ne veux pas m'arrêter sur un métier. Je pense qu'dans une vie, on peut faire plein de métiers différents et s'épanouir tout autant. Et juste faire par période. Et après, la mobilité internationale, c'est hyper important pour moi. Je pense que j'aimerais beaucoup faire des missions un peu partout. Et aussi l'événementiel qui m'intéresse. Là, j'ai fait une mission en agence de voyage. Je pense que c'est un peu la conjecture de tout ce que j'aime. Et donc, c'est pour ça que quand je suis rentrée à Paris, je me suis un peu posée en mode, qu'est-ce que j'ai envie de faire après ? Et c'était un peu tout fouillé. Mais du coup, maintenant, je sais un peu le type de poste que je veux. Après, la question, c'est plus où. Mais c'est hyper important quand même, je pense, pour les jeunes générations, de trouver un équilibre entre ses goûts personnels et professionnels.
Alors, c'est vrai que nos parents et nos grands-parents ont plutôt, en général, fait toute leur carrière dans la même société. Et ils ont commencé par travailler assez dur avant de voyager. Vous êtes né en 2020 et on comprend parfaitement que les jeunes aujourd'hui, bah, nous, n'ont pas envie d'attendre l'âge de 50 ans avant de faire des voyages. Ça paraît tout à fait... C'est un discours qu'on peut parfaitement entendre. Est-ce que...
Surtout pendant les études, je pense que c'est une opportunité parce qu'il y a beaucoup... Enfin, l'année de césure, elle est beaucoup plus développée, je pense. Et elle est très bien vue. Par exemple, sur les CV, je pense qu'avant, quand on avait une année de trou, on va dire, c'était un mode, qu'est-ce que tu as fait de ton année ?
Non, mais heureusement.
Donc, ça encourage.
On progresse, on évolue. Et aujourd'hui même, aux États-Unis, par exemple, c'est très mal vu d'avoir fait toujours le même job pendant des années, parce qu'on passe pour un pantouflard. En Europe, maintenant, on commence à, comprendre et entendre que la personne ait plusieurs jobs différents parce qu'au bout d'un moment, on en a assez, on a envie de changer. Et donc, voilà. Oui, on évolue sur ces questions-là. Est-ce que ça vous va bien, Anaïs Masson, d'être née en 2000, ou est-ce que vous auriez aimé connaître une autre époque ?
Je pense que j'aurais aimé vivre un peu les années... Enfin, être née 30 ans avant, je pense, mais plus lié aux réseaux sociaux.
Et un peu la génération de vos parents ?
Oui, ou déjà de grandir sans téléphone. Je pense que les réseaux sociaux et le téléphone, c'est vraiment un fléau. Aujourd'hui, tant que pour la santé mentale que pour les jeunes. Vraiment, j'avais vu un reportage où justement le taux de suicide, le taux de comparaison sur les réseaux sociaux avait énormément augmenté. Donc, j'aurais aimé ne pas connaître ça parce que c'est vrai que je suis assez dépendante de mes écrans. Donc, je pense que j'aurais aimé. Et après aussi, je pense qu'on est très paradoxal dans nos années parce qu'on a envie de tout. En fait, on s'écoute. On n'est plus sujet, du coup, au sujet santé mentale et d'écologie. En même temps, on veut avoir une carrière professionnelle. En même temps, on veut voyager. En sens, on se pose beaucoup plus de questions. Et du coup, on est très torturés. Enfin, moi, je vois, on est tous en crise existentielle, là, de... est-ce que, là, ça y est, je rentre, je ne sais pas, en CDI ? Mais en même temps, est-ce que j'ai peur de passer à côté de ma vie ? Est-ce que je veux vraiment faire ce métier ? Est-ce que je veux me prendre tant la tête que ça ? Enfin, vraiment, c'est... En même temps, on ne veut pas consommer. Mais en même temps, on est les personnes qui consomment le plus. Enfin, c'est hyper...
C'est paradoxal, c'est le mot que vous avez employé, Anaïs. Et évidemment que... Alors, je trouve que vous avez une très bonne observation de notre époque, parce que le paysan, dans les années 1950, dans le Limousin, effectivement, il n'avait peut-être pas beaucoup de crises existentielles, parce qu'il fallait... assurer la récolte, etc., et qu'il était tout le temps debout, il était tout le temps dans l'action, et qu'il n'avait pas cette ouverture sur le monde aujourd'hui. Vous discutez avec vos amis qui se trouvent à 10 000 kilomètres. Je ne sais pas si vous avez encore de la famille à Madagascar, mais il n'y a plus de frontières. On peut se parler sur WhatsApp. Vous êtes une bonne Je trouve que vous avez une bonne, un assez bon verdict sur la période qu'on est en train de vivre. Alors, vous êtes née en 2000, Anaïs Masson. Qu'est-ce que vous dites à vos parents ? Merci pour le cadeau. Vous nous laissez une planète dans un état lamentable, avec des conflits, avec des tensions, avec de la haine, avec des métaux lourds qui polluent les sols. Ou est-ce que vous dites, eh ben nous, on est la génération et vous allez voir ce que vous allez voir et on va améliorer les choses.
Je pense que, en fait, je remercie plus mes parents parce que eux, ils ont vraiment la conscience écologique. Mes parents, ils travaillent dans la transition durable, donc c'est plus eux qui m'ont éveillée là-dessus.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple ?
Oui, du coup, ma belle-mère, elle est chargée d'économie circulaire à la ville de Paris.
Ah oui, qu'elle est concernée au premier chef.
Oui, et mon père, il aide des entreprises, du coup, sur la transition durable et il est associé dans une entreprise qui s'appelle, je ne sais plus,
bon.
Impact Climat. Et du coup, qui calcule l'empreinte carbone des entreprises et qui essaye de les accompagner, du coup, à transiter. Et enfin, ils ont quand même un mode de vie assez écologique. Ils ont décidé de déménager de Paris, d'essayer de ne pas prendre l'avion du tout, en fait. Bon, à part pour la Colombie, là. Et donc, c'est plus... Et ils sont végétariens, les deux, aussi.
Oui, parce que vous êtes allés avec vos parents en Colombie.
Ils m'ont rejoint là-bas.
Vous rejoint.
Mais bon, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas pris l'avion. Enfin, ils essayent vraiment de limiter. Et après, de laisser ce monde dans lequel on vit, je trouve que c'est un peu compliqué parce que je trouve que c'est assez cyclique, je trouve, les conflits. J'ai l'impression qu'on répète assez l'histoire... Ce qui se passe, il y a toujours, par exemple, la montée de l'extrême droite. Ensuite, il y a un conflit énorme. Ensuite, les gens se rendent compte. Et du coup, j'ai l'impression qu'il se repasse la même chose.
Je ne sais pas si vous faites référence au Chili, mais on est aujourd'hui le 17 décembre et on vient d'apprendre que le Chili a voté pour un candidat d'extrême droite, alors que le Chili a subi la dictature de Pinochet. Voilà, donc ça se répète, effectivement.
Oui, ça se répète en Allemagne, en France, alors qu'on a vu ce qui s'est passé suite à l'extrême droite. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas nos erreurs. Donc, j'ai l'impression que j'en veux plus au gouvernement et aussi peut-être au mode de vie capitaliste qui fait qu'il y a toujours aussi un crash économique à un moment. Et après, je trouve que les modes de consommation d'avant, je ne pense pas que ce soit mes grands-parents qui consommaient le plus. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de gadgets qui font qu'on consomme.
Bon.
Alors qu'on devrait pas.
On peut acheter des cochonneries pour ça, pas rien, complètement d'accord.
Donc, j'en veux pas tellement aux anciennes générations de nous laisser. Et il y a quand même, justement, encore, je reviens sur ce paradoxe de. Il y a une génération, la génération qui veut essayer de changer, moins consommer et revenir aux choses plus simples et vraiment de limiter. Et ça, c'est
possible. Hein.
C'est super. Mais d'un autre côté, de hyper-consommation. Enfin, moi, je vois, et même j'en suis consciente, que j'ai ces deux côtés-là chez moi, d'hyper-consommation, mais d'essayer de... Et en tant que politique et en tant qu'écologie, de faire comme je peux aussi, mais aussi de profiter de ma vie, parce que je sais que j'ai que cette vie-là. Donc c'est un peu...
Vous ne croyez pas en la réincarnation, Anaïs Masson?
Si, peut-être. Pourquoi pas? Oui. Donc c'est vraiment jouer entre ces trois pôles, on va dire. Eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça. Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça. Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo. Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo. Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo. Esse é o DJ.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Qu'est-ce qui, dans un avenir prochain, donc là vous rentrez en France ce soir, on est aujourd'hui le 17 décembre 2025, vous rentrez en France et ensuite, qu'est-ce qui se passe vous, donc là, vous êtes diplômé, donc vous avez achevé vos études, vous allez chercher du travail?
Oui. Du coup, j'étais déjà en recherche quand je suis rentrée et j'avais trouvé une mission freelance. Mais là, l'objectif, c'est soit je voulais faire une formation complémentaire de mon master d'analyse de données. Et sinon, ce serait de trouver un métier où je pourrais être entre la France et le Brésil.
Ah oui, donc c'est le Brésil, ça. C'est partie de votre vie.
Même pendant mon voyage, je me suis un peu rendu compte que j'ai rencontré beaucoup de Français qui étaient comme ça, entre la France et le Brésil, de trouver un métier où du coup je pourrais faire naviguer entre les deux. Mais bon, l'objectif principal, oui, c'est de trouver un travail qui m'épanouirait professionnellement.
Et est-ce que vous arrivez à dire pourquoi est-ce que vous avez ce lien fort comme ça avec le Brésil?
En fait, je pense... ça rejoint un peu l'Amérique latine, c'est que je m'y retrouve dans mon identité en tant qu'enfant métisse, parce que j'ai grandi dans un cadre européen avec un parent français, mais aussi une culture malgache que j'ai acquis, j'ai grandi avec ça, avec cette chaleur humaine, mais avec ce côté occidental. Et je pense que le Brésil ou par exemple la Colombie, je trouve que les personnes ont ce côté-là. Je trouve que c'est quand même un mode de vie assez occidental.
On se comprend assez bien. Oui, on n'est pas très éloigné sur le plan culturel. On est plus proche.
Oui, par rapport à l'Asie, par exemple, qui n'a rien à voir. Mais en même temps, il y a cette chaleur humaine que moi, qui me manque des fois en Europe. Parce que du coup, les gens, ils ne sont pas assez proches. Ils ne se serrent pas dans les bras. Ils ne se disent pas autant de mots d'amour. Et je pense que c'est pour ça que je m'y sens super bien. Je me sens comprise, en fait, je pense. Et donc, c'est pour ça que je sens ce lien fort. Et après, j'avoue que Rio, c'est une ville que...
C'est un monde, Rio de Janeiro. Et puis, c'est vrai que nous, occidentaux, qui venons, on va dire, combien d'un pays riche. La France est un pays riche qui fonctionne.
Oui.
Tout ne fonctionne pas parfaitement, évidemment. Mais ici, les Brésiliens, souvent, ont une vie quand même plus difficile. Et ce n'est pas pour autant qu'ils râlent. Et nous, on a l'impression qu'on passe notre temps à râler, alors que globalement, on vit dans... C'est un pays facile.
Oui, c'est ça.
Est-ce que je ne connais pas Madagascar, mais Madagascar est un pays pauvre. C'est un grand pays, c'est très grand. Est-ce qu'il y a aussi à Madagascar un sourire, une joie de vivre, même de la part des gens qui vivent dans le dénuement?
Oui, oui, je pense que dans tous les pays pauvres, je pense que quand on vit quelque chose de très dur, on a souvent une empathie et un peu de se rendre compte que la vie, que justement, on se satisfait. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que moi, j'ai vécu dans un cadre très privilégié.
Vous avez toujours vécu à Paris, enfin en région parisienne, d'un milieu favorisé. Je disais que vous partiez en vacances, vos parents vous ont payé vos études.
Ça, oui. Enfin, j'étais à la fac, mais j'ai été beaucoup aidée par mes parents financièrement. Donc, je peux pas parler à la place du coup de personnes qui ont vécu dans un cadre non privilégié, mais du peu de ce que j'ai vu, je pense que du coup, quand on a beaucoup de problèmes dans notre vie, c'est justement les personnes qui ont le plus de problèmes, qui sont assez empathiques et qui sont joyeuses, puisqu'ils sont en mode, bah, autant vivre bien sa vie. Et donc, oui, à Madagascar, il y a cette chaleur humaine, en tout cas. Enfin, moi, mes grands-parents, on est très proches et pourtant, on ne peut pas tant se voir parce qu'il y en a qui sont à Madagascar, il y en a qui sont dans d'autres pays du monde, mais à chaque fois, on sent tout de suite que, qu'on est à la maison et que même la communauté malgache en France s'aide beaucoup entre eux. Il y a vraiment cette
solidarité.
Ah oui, il y a beaucoup de communautés. Et c'est vrai que je l'ai ressenti aussi en Amérique du Sud.
Le Brésilien a un talent, je trouve, pour le bonheur.
Oui, oui, très allégré. Hein.
Anaïs Masson, globalement, en conclusion, avoir 20 ans en 2026, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de notre monde ou réservé, voire pessimiste?
Je pense que je suis optimiste parce que, justement, on a accès à tellement d'informations et de médias et que je trouve que les nouvelles générations, elles veulent vraiment prendre action vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'écologie, et qu'on a beaucoup plus de moyens maintenant, ben, grâce aux réseaux sociaux aussi quand même, si je ne les aime pas trop, de faire changer.
Oui, il y a du bon et du mauvais. Hein.
Oui, et même, je pense que la mondialisation, ça a du bon comme du mauvais, mais ça permet du coup de plus de se rendre compte des problèmes aussi dans le monde. Et donc, oui, je suis plutôt optimiste. Sur notre monde aujourd'hui.
Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que nous, on compte sur vous, on compte sur votre génération. Est-ce que vous vous sentez un peu une âme de leader? Est-ce que vous seriez capable, par exemple, d'embrasser une cause, de militer, d'aller au front, de mobiliser?
Alors, c'est un peu la question que je me pose en ce moment parce que, par exemple, l'écologie, c'est des fois je me sens pas légitime en fait de militer parce que justement toutes mes actions elles sont pas en tendance d'écologie alors que j'en suis consciente, un peu une dissonance cognitive vis-à-vis de ça. Par exemple, j'aimerais ne pas prendre l'avion mais j'adore voyager, donc comment,
s'il y a pas d'alternative, je pense que ça c'est pas la peine de culpabiliser.
Oui, mais je pourrais ne pas le faire. Je pourrais ne
pas. Ah oui, après on peut renoncer, bien sûr.
Oui, c'est ça. Donc
mais là, c'est quand même sympa de faire votre connaissance à Rio de Janeiro.
Oui.
C'est quand même sympa. Moi, j'habite à Paris, vous aussi.
Oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est super. Et c'est super de pouvoir, en 10 heures d'avion, de traverser un continent. Mais du coup, genre, justement, vis-à-vis de cette culpabilité, de cette non-légitimité, même pour la cause féministe, des fois, je ne me sens pas super légitime. Je trouve que ce serait difficile pour moi d'être leader sur cette cause. Après, je pense que j'ai réalisé que je pense qu'il ne faut pas juger les personnes et que chacun fait du mieux qu'il peut. Et parce qu'on a tous des goûts par rapport à... Enfin, on est tous humains et on a tous des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, je ne sais pas, des gens qui adorent la viande, des gens qui fument et qui ne peuvent pas. Enfin, en fait, je pense que tant qu'on fait du mieux qu'on peut, bah c'est ma façon plus de militer. Et de me dire, bah, je fais du mieux que je peux et ça pourra apporter. Enfin, c'est mieux que de ne rien faire et de voilà et après de toujours me renseigner, m'éduquer sur sur ces sujets-là et ok bah par exemple l'avion c'est quelque chose que j'ai du mal à faire mais par exemple limiter ma consommation de viande par exemple voilà de faire des manifestations pacifiques sur les différents conflits la cause féministe hein, ou d'autres génocides enfin, par exemple j'essaie en tout cas de militer sur ça mais je pourrais pas dire que je suis leader parce que justement j'ai des gens de mon entourage qui le sont et c'est super impressionnant mais et je les admire énormément et enfin ils m'inspirent et c'est des gens de ma génération et genre même aussi par exemple sans rien que le boycott des fois moi j'arrive pas à boycotter certaines marques alors que j'aimerais donc voilà.
Est-ce que vous avez un exemple pour illustrer, par exemple, votre difficulté à boycotter une marque en particulier? Et pourquoi est-ce que vous la boycotteriez? Parce qu'Alain, sur le plan éthique, vous avez un problème avec ça?
Oui, sur le plan éthique, par exemple, je ne sais pas, Carrefour ou Amazon, c'est des grandes marques qui participent du coup à... Enfin, déjà, Amazon, on va dire, c'est sur l'hyperconsommation. Mais par contre, des fois, oui, j'ai la flemme de vouloir aller chercher à l'autre bout. Enfin, c'est en un clic, c'est fait sur Amazon. Donc, des fois, ça m'arrive de commander là-dessus alors que je n'aimerais pas. Je pense que c'est la pire des choses, même au niveau de comment ils traitent les employés ou quoi que ce soit. Ou Carrefour, bah, c'est le supermarché à côté de chez moi. J'aimerais ne pas acheter, mais...
On va parfois à la facilité, Anaïs Masson. Oui. On est d'accord. Vous avez eu un mot à l'égard des réseaux sociaux où vous avez été critique vis-à-vis des réseaux sociaux. Moi, je ne vous connais pas personnellement, Anaïs Masson, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel et je ne vois pas du tout en influenceuse, par exemple.
Bah pourtant, j'adore partager des stories. J'adore faire des photos, donc je partage beaucoup. J'aime beaucoup partager des moments que je vis avec les gens. Donc si, en vrai, je pense que j'ai même un compte de voyage, donc j'ai pas trop... J'avais commencé pendant le Brésil, mais je l'ai un peu stoppé. Donc si, j'adore créer des montages, des vidéos. Après, me mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Enfin, des fois, je viens de poster des photos de moi, mais ça va pas être mon contenu principal. Mais en tout cas, si, j'aime beaucoup partager ma vie. Et peut-être que si, c'est quand même un problème que j'ai de... Du coup, je me dis, ah, j'ai envie de partager ça et peut-être de réfléchir en mode, ah, bah, cette photo, elle va être bien pour partager. Je trouve que c'est pas sain, du coup, ce rapport-là avec les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais oui, je ne me considère pas comme une influenceuse, par contre. Très bien.
Merci, Anaïs Masson, avoir 20 ans en 2026. Bon retour en France, bon voyage. Et bah, j'espère que vous allez trouver, effectivement, le job qui va vous permettre de vous partager un petit peu entre la France et le Brésil.
Bah, merci beaucoup, c'était super intéressant.
Merci Anaïs.
Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Est une rediffusion.